journal, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Les coups de pouce, énergie, inflation en route pour les comptes en banque de millions de Français. Des aides exceptionnelles promises par l'État pour amortir notamment les hausses du gaz et de l'électricité. Triste fin, le club de livres France Loisirs, victime de plein fouet du e-commerce. En liquidation judiciaire, 120 boutiques, 800 salariés suspendus à la décision du tribunal de commerce. Le rush des retardataires de plus de 65 ans pour se faire piquer une troisième fois. Mercredi 15 décembre, au-delà de cette limite, votre passe sanitaire n'est plus valable. Un pays dans l'impasse, des jeunes sans espoir, un Tunisien sur 5 veut quitter son pays pour l'Europe, une enquête nationale inédite sur les migrations. Et puis JO 2024, la cérémonie d'ouverture prendra le large, hors le stade olympique, le concept sera dévoilé aujourd'hui.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui l'humoriste et comédien Vincent de Dienne pour son seul en scène, un soir de gala au Bouffes du Nord à Paris.
France Inter.
Un chèque énergie exceptionnel, Laurence, au pied du sapin pour 5 800 000 Français.
Un coup de pouce promis par le gouvernement aux foyers les plus modestes pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, en particulier de l'électricité et du gaz. Cette aide va partir de façon étalée par la Poste sur les 10 prochains jours en fonction des régions. Un bonus qui vient s'ajouter à l'indemnité inflation qui, elle, concerne 38 millions de Français. Une enveloppe, Delphine Simon, qui est loin de satisfaire les associations.
100 euros tout qui s'ajoute au chèque énergie déjà accordé au printemps. Au total, cette année, l'aide d'urgence pour payer sa facture varie entre 148 et 377 euros maximum. Mais en pleine flambée des prix de l'énergie, c'est tout sauf suffisant, rappelle à la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue.
Ça ne va même pas compenser la hausse des prix de l'énergie sur l'année. Surtout ceux qui sont dans des passoires énergétiques et pour qui la facture générale globale s'élève parfois à plus de 2500 ou 3000 euros. Donc il faudrait doubler le montant de ce chèque énergie et sans doute l'élargir.
Car les conditions d'attribution du chèque sont très réduites, un adulte au SMIC n'y a pas droit. Comme plusieurs associations, la Fondation Abbé Pierre réclame aussi l'arrêt des coupures d'énergie pour impayés, 300 000 coupures l'an passé. Le médiateur de l'énergie Olivier Chalon-Belval veut un accès minimum pour tous à l'électricité.
Couper l'électricité d'un foyer en situation précaire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éclairage, plus de téléphone, plus de chauffage, même pas de chauffage au gaz, puisque pour le chauffage au gaz, il faut de l'électricité. Il n'y a plus d'internet. Ça aggrave considérablement la situation. Il faut donc arrêter de couper l'électricité.
À ce stade, seul EDF a répondu oui. Le médiateur de l'énergie demande à toutes les parties concernées de se mettre autour de la table pour en discuter.
Delphine Simon, un livre qui se referme, 800 salariés de France Loisirs sur la sellette. France Loisirs et son réseau d'une centaine de boutiques pourraient bien disparaître. Le groupe sera fixé sur son sort aujourd'hui. Les millions d'abonnés à France Loisirs ne sont plus qu'un lointain souvenir créé en 1970. Ce concept de club des livres a vieilli. Le système de vente par abonnement n'a pas résisté au commerce en ligne. Et les deux candidats à la reprise de l'enseigne placés en liquidation judiciaire ne semblent pas solides aux yeux des syndicats. Les salariés ne se font aucune illusion. Reportage de Lauriane Delanoë dans une boutique France Loisirs près de la gare Saint-Lazare à Paris.
Pour nous, c'est vraiment un drame social ce qui se passe. C'est une page qui se tourne malheureusement.
Sandra Doucet a passé 21 ans, la moitié de sa vie dans les boutiques France Loisirs. Cette vendeuse avait repris espoir en septembre quand le club de livres a supprimé l'obligation d'abonnement.
Les gens, par exemple, rentraient en boutique et nous disaient « faut toujours être adhérent chez vous ». Et nous, on leur disait « non, madame, justement, faites-vous plaisir ». Puisque nous, on a quand même les livres 25 à 30% moins chers. Et là, les gens, ils disaient « ah, enfin ». Du coup, oui, je pense que si on avait eu un peu plus de temps, que les gens, en fait, avaient été au courant, on aurait pu sauver France Loisirs.
Sandra rappelle les changements initiés dès 2018, les formats poche, la vente en ligne, la séparation des catalogues adultes et jeunesse, mais France Loisirs n'a pas su reconquérir les lecteurs à cause des crises.
Les gilets jaunes, la grève des transports et ensuite il y a eu la crise Covid. Je suis très très triste.
De la tristesse aussi pour les clientes en rayon.
Vous aimez les polars ?
Ici, ce sont des abonnés de longue date.
Depuis combien d'années ? Oh là, 25 ? J'y trouve tous les livres qui m'intéressent.
Je viens surtout par fidélité.
On est accueillis d'une façon beaucoup moins anonyme qu'ailleurs.
Merci, bonne journée. Moi je suis à la retraite, alors je ne peux pas me payer des livres très chers. Quand on achète, on a un livre cadeau. Si ce magasin n'existait plus, j'espère que ça va exister sur Internet.
Les clientes et les salariés espèrent une reprise pour, à minima, sauver la marque France Loisirs.
Il est 7h35 et c'est une première étape, Laurence, de la vaccination des 5-11 ans en France.
La France reçoit aujourd'hui ses premières doses de vaccins pédiatriques contre le Covid. Les plus fragiles pourront être vaccinés à partir de mercredi. Et dans le scénario actuel du gouvernement, l'ouverture de la vaccination à tous les enfants pourrait intervenir à partir du mois de janvier sur la base du volontariat. Un peu plus de 360 000 enfants sont potentiellement concernés. Et chez les plus de 65 ans, eh bien c'est la course pour mettre à jour son pass sanitaire. Car à partir de mercredi, le précieux sésame sera désactivé s'ils n'ont pas reçu leur dose de rappel. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, ils étaient 76,5% à rentrer dans les clous en fin de semaine dernière. Reportage d'Alice Cachaner au centre de la Porte de Versailles à Paris avec les vaccinés dernière minute.
Hop, je prends une température.
Après avoir passé l'accueil, Brigitte, une coquette sexagénaire, remplit scrupuleusement la fiche de renseignement. Sa dernière injection date du mois de mai.
J'ai reçu un mail parce qu'en fait, le pass sanitaire n'est valable que 7 mois. Ma dose de rappel, il fallait que je la fasse avant le 15 décembre. Sinon, mon pass sanitaire n'était plus valable. Bon, je l'ai fait aussi, hein, parce que bon, bah oui, on va dire pour me protéger, pour protéger les autres. Mais c'est vrai que si c'était pas obligatoire, je sais pas si je l'aurais fait.
Géraldine aussi se fera vacciner plus par nécessité que par conviction.
J'y vais docile et intéressée pour ce que ça m'amène en confort de vie.
Donc c'est pour le Moderna et pour le droit.
Installé dans un box, Christophe, 65 ans, tend le bras pour recevoir sa troisième dose de vaccin.
Parce que je voyage, je suis obligé de respecter les règles des pays qui vont m'accueillir et du pays duquel je vais sortir. Donc sans ça, je ne peux pas circuler.
On sent que les gens sont pressés d'un seul coup.
Guillaume Burlaton, le médecin-chef du centre de vaccination.
En tout cas, je peux rassurer les plus de 65 ans. On a du Moderna suffisamment pour vacciner tout le monde. On est prêt à les accueillir sans rendez-vous dans la limite des créneaux disponibles et des doses disponibles.
Oh, monsieur, bonne journée.
À la sortie du vaccinodrome, les personnes vaccinées repartent avec un nouveau QR code. Aucun délai, leur passe sanitaire est immédiatement valide après la troisième dose.
Et de l'autre côté de la Manche, Boris Johnson bat le rappel pour la troisième dose pour tous face au variant galopant Omicron. Dans une allocution télévisée hier soir, le Premier ministre britannique a ouvert la troisième dose à tous les adultes de plus de 18 ans. Jusque-là, elle était seulement réservée aux plus de 40 ans. Aux États-Unis, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise après le passage de tornades sur plusieurs États. Ce phénomène météo exceptionnel a surtout frappé la ville de Mayfield dans le Kentucky. Une centaine de morts selon un bilan provisoire. C'est le premier déplacement d'un chef d'État français en Hongrie depuis 2007. Emmanuel Macron boucle son tour d'Europe avant que la France préside l'Union européenne le 1er janvier. Il rencontrera le Premier ministre Viktor Orban, mais aussi des dirigeants de l'opposition. À présent, ce chiffre édifiant, un Tunisien sur cinq veut quitter la Tunisie. Conclusion d'une enquête nationale sur les migrations, la première du genre à être réalisée dans ce pays. Le chiffre est encore plus élevé chez les jeunes de 15 à 29 ans. 40% des jeunes Tunisiens veulent rejoindre l'Europe. Maureen Mercier.
Bilal, 24 ans, n'a plus le moindre espoir. Il a cessé ses études avant le bac. Très vite, comme tant d'autres, il se retrouve dans l'impasse.
Ici, si tu as de la chance de trouver un travail, tu es obligé d'accepter de toucher un salaire minime. Et là, tu as à peine de quoi survivre.
En Tunisie, le chômage frappe 40% des jeunes désormais.
Vraiment, le pays, il est à genoux.
Rami Salhi est directeur du bureau Maghreb d'Euromed Droit, une ONG qui regroupe les défenseurs des droits humains des deux côtés de la Méditerranée.
L'Europe, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut prendre la crème, les diplômés, les médecins, les ingénieurs. Le nombre des ingénieurs informatiques et de médecins tunisiens qui travaillent en Europe, en Allemagne et en France principalement, c'est hallucinant. La Tunisie, elle investit et puis hop, ils sont récupérés par l'Europe. Mais vraiment, c'est une honte.
Bilal sait que lui et ses amis n'obtiendront jamais le moindre visa. Écœuré, il en veut surtout aux autorités tunisiennes.
Je n'ai rien vécu de bien ici. Au fond, on aime notre pays, mais ceux qui le dirigent nous ont forcés à le détester. Nous, les jeunes, on ne rêve que de quitter ce pays, peu importe si on meurt en mer.
Les Tunisiens représentent la première nationalité à atteindre clandestinement l'Italie, plus du quart des arrivées, selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
L'actualité judiciaire avec la dernière semaine du procès pour complicité de génocide Tutsi au Rwanda. À la barre de la cour d'assises de Paris ce matin, un chauffeur de taxi d'un hôtel touristique de l'ouest du pays. L'homme occupait ces dernières années un poste de cantonnier à Rouen, mais au printemps 1994, il aurait transporté des miliciens Hutus sur les collines rwandaises où des massacres ont été commis. Emmanuel Leclerc.
Claude Moyimana va pouvoir cette fois s'expliquer longuement aujourd'hui et demain face à la cour d'assises de Paris.
Comment a-t-il pu à plusieurs reprises conduire dans son taxi d'hôtel réquisitionné ces hommes armés déterminés à exterminer leurs semblables dans des églises ou dans des écoles rwandaises en 1994. Un ancien séminariste est venu encore vendredi raconter par visioconférence avec parfois des sanglots dans la voix ce lycée où il s'est retrouvé au milieu de cadavres d'élèves alors qu'il venait voir un ami professeur et qu'il fut lui-même frappé mais finalement épargné parce que l'un des assassins l'a reconnu et a assuré qu'il était gentil. On ne saura pas si l'accusé avait précisément amené ce jour-là dans sa camionnette les meurtriers. L'avocate de Claude Moyimana, Françoise Matt, préfère évoquer d'autres témoins venus raconter à la barre ces Tutsis sauvés dans le même temps par l'accusé.
Il les a aidés à fuir par le lac Kivu en pirogue vers le Congo pour les sauver. Beaucoup de personnes lui doivent la vie. Et la question qui se pose au cours de ce procès, c'est est-ce que c'est quelqu'un d'ambivalent qui a donné des gages à l'autre camp pour sauver des personnes ou pas? C'est ça la vraie question.
Le verdict dans ce procès pour complicité de génocide de Claude Moyimana est attendu vendredi soir.
Emmanuel Leclerc, spectaculaire, hors du commun, inoubliable. C'est l'ambition de Paris 2024 pour la cérémonie d'ouverture. Les membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques vont dévoiler aujourd'hui le concept du coup d'envoi, un événement destiné à marquer l'histoire des JO. Fabrice Abgral.
Les dirigeants de Paris 2024 souhaitent casser les codes et rompre avec la tradition. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie d'ouverture n'aura pas lieu à l'intérieur du stade olympique. Elle se déroulera à Paris, au cœur de la ville et en grande partie sur la Seine. C'est là que les athlètes installés sur des barges défileront au fil de l'eau. Les 10 500 sportifs représentant 206 comités nationaux olympiques débarqueront ensuite au Trocadéro où se déroulera la fin de la cérémonie. Des tribunes seront installées sur les quais de Seine. Plus de 500 000 personnes pourront assister à l'événement, bien plus que les 80 000 spectateurs du Stade de France. Reste l'épineuse question de la sécurité. Comment assurer la protection des spectateurs, des sportifs et des officiers dans ces conditions. Il est sérieusement question de faire appel à l'armée. Les militaires, dont les gendarmes, viendront au soutien des forces de police et des agents de sécurité employés par des entreprises privées. L'endroit où sera installée la vasque olympique n'est pas encore connu, peut-être au niveau de l'esplanade du Trocadéro, en tout cas pas très loin de la Tour Eiffel, monument symbole des Jeux de Paris 2024.
Et merci Laurence Thomas, l'édito politique à suivre sur Inter.
Avec le froid et l'humidité, le coronavirus circule de plus en plus. Pour se protéger et protéger les autres, il est primordial d'appliquer ces gestes barrières. Porter un masque à l'intérieur, aérer les pièces 10 minutes toutes les heures, se laver les mains, éviter de s'embrasser et de serrer les mains. Restons prudents et continuons de prendre soin les uns des autres. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Il est 7h43.
Le 7-9. Sur France Inter.
L'édito politique, Thomas Legrand. Pourquoi la gauche est-elle si faible?
Et une réponse communément admise voudrait que la raison principale soit son abandon de quelques fondements républicains, universalisme ou laïcité. La gauche, parce qu'elle défend les opprimés, n'aurait pas vu s'installer l'islam politique dans les quartiers populaires. Elle aurait été trop conciliante sous prétexte que les musulmans sont victimes d'une société toujours raciste. Une partie du dit peuple de gauche aurait vécu cet abandon des valeurs républicaines comme une trahison. Détaillons cette idée bien ancrée. Retour il y a 30 ans, 1989, Creil, dans l'Oise, deux élèves voilés sont exclus de leur collège. Les socialistes au pouvoir sont divisés, une partie du PS, encore largement composée d'enseignants très laïcs, soutient l'exclusion. D'autres estiment que l'école laïque sera plus forte et que les collégiennes finiront bien par enlever leur voile. C'était avant l'offensive islamiste du fils en Algérie.
Et puis, il y eut, Thomas, la loi de 2004.
Après 5 années de confusion juridique sur le voile à l'école, cette loi du gouvernement Raffarin l'interdit. Et pendant les mois qui précédaient le vote, la plupart des socialistes, Manuel Valls lui-même, alors maire d'Evry, ne voulaient pas de ce texte jugé stigmatisant. Mais au fil des débats et au vu des conclusions du rapport Stasi, tous les socialistes, on l'oublie souvent, mais tous les socialistes ont voté avec le RPR pour bannir le voile à l'école. Et c'est le PC et une grande partie du centre droit, UDF, qui a voté contre. Il faut rappeler ces votes parce qu'il est courant, ces temps-ci, de dater le début du supposé abandon de l'idéal laïque du PS en 2004. À gauche, des années plus tard, deux lignes se sont effectivement opposées, dont le duel final de la primaire de 2016 fut la manifestation la plus claire entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Hamon représentant un républicanisme réputé plus conciliant, Emmanuel Valls plus ferme. Benoît Hamon gagne la primaire et ce serait parce que la ligne ferme n'a pas été retenue que le PS aurait sombré en 2017. 2017 et depuis. Mais cette analyse est bien courte parce que, à l'époque, le discours d'Emmanuel Macron sur le sujet était plus proche de celui de Hamon que de celui de Valls, et Macron gagne en 2017 avec un grand nombre de voix de gauche. Aujourd'hui, Anne Hidalgo tient un discours républicain quasi valsien, au contraire de Jean-Luc Mélenchon. Or, c'est ce dernier qui est en tête d'une gauche, certes très faible. Le problème